Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte.
Anna Raffaella Farao.
Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes. Mais avant cela, je vais vous énoncer le rébus que j'ai concocté pour nos auditeurs. Alors, à vos crayons. Alors, mon premier est « aller à la troisième personne du singulier ». Mon deuxième est la largeur d'une étoffe. Mon troisième est une graminée cultivée dans les terrains humides et chauds. Et mon quatrième est synonyme de baudet. Mon tout calme les nerfs. Vous aurez la solution à la fin de la séquence. Alors faites travailler vos méninges. Si je te dis Max, tanésie, pulmonaire, morelle, jusquame ou saponaire, à quoi penses-tu? Eh bien, ce sont des plantes, pour certaines, connues depuis l'Antiquité. J'en ai sélectionné quelques-unes peu connues ou tombées dans l'oubli par un large public et je vais vous délivrer leurs secrets. Je commencerai par l'achillée, de son nom populaire, herbe de Saint-Joseph, herbe à narines, herbe du nez, herbe aux coupures, sourcil de Vénus. Son nom nous provient du héros mythologique Achille, vous l'aurez bien compris, qui fut blessé au talon et guéri par une médication que lui indiqua Vénus. Cette plante est efficace pour stopper l'hémorragie nasale. Elle a des vertus cicatrisantes et anti-hémorroïdales. Elle est utilisée également en Suisse pour ses valeurs apéritives et entre dans la composition du thé helvète, poisson composé de plantes sylvestres. Elle pousse partout, c'est la base de la pharmacopée populaire. La benoîte. Herbe de Saint-Benoît ou herbe de feu, herbe à la fièvre. Herbe du bon soldat, herbe de sang. L'étymologie est plante bénie, benedicta en latin. Sa racine contient une huile qui rappelle le clou de girofle. Elle sert encore de nos jours à aromatiser des liqueurs. C'est une cousine du fraisier. Elle fut appelée herbe du bon soldat car elle faisait partie du pactage du militaire pour calmer au besoin des ardeurs difficiles à assouvir en garnison. Elle fut utilisée également dans les couvents pour les mêmes raisons, c'est-à-dire à calmer les ardeurs amoureuses des jeunes religieuses. Ses pouvoirs sont sédatifs et calmants. La consoude, du latin consolida, consolider, qui répare en quelque sorte et ressoude les fractures. Populairement appelée langue de bœuf, oreille d'âne, herbe qui soude, herbe des gerçures, herbe au canard et herbe au cochon, car l'alimentation de ces animaux en contenait. Elle est utile donc pour blessures et contusions. Anciennement, nos grands-parents faisaient des pommades. Grâce à la lanthoïne qu'elle contient, elle contribue efficacement au renouvellement cellulaire et son jus est un cicatrisant extraordinaire. Le langage de la consoude. Anciennement, on croyait que la pommade de consoude avait le pouvoir de réparer l'hymen des jeunes filles pour feindre une virginité perdue. Cela allait loin car un bouquet disposé à la fenêtre d'une jeune fille signifiait qu'elle était coureuse. Le gaillet, du latin gallium, tiré du grec gallion, dont la racine gala désigne le lait. Son nom populaire est d'ailleurs caillet, herbe à cailler, herbe du miel, herbe à la cire, car elle rappelle l'odeur du miel et de la cire. Mais elle est connue aussi comme herbe de la Vierge ou herbe de Saint-Jean en raison de ses propriétés médicinales. les plantes caillées sont peu nombreuses. La gaillée est de celle-là. En Angleterre et en Hollande, l'ajout de sommités fleuries au moment de l'empressurage permet d'obtenir des saveurs et des pâtes colorées telles que les gouda et les chester. Au XIXe et au XXe siècle, la culture du gaillet fut amplement développée pour ses utilisations fromagères. C'est donc à la fois un coagulant et un colorant naturel. Avec les racines et les fleurs en décoction, avec une adjonction d'alun, on peut teindre la laine qui prendra une belle couleur orangée. La jusquam, du grec is, qui est le porc, et chiamos, fève, donc fève de porc. Son nom populaire est herbe à cochon, mort aux poules, herbe au sommeil, herbe à dents, herbe à la sorcière. C'est une plante toxique et son usage interne ne fut conseillé qu'à partir du XVIIIe siècle. C'est un analgésique, antispasmodique et un narcotique, car il provoque des hallucinations. On l'appelait justement herbe à la sorcière, car ces dernières l'utilisaient pour préparer des philtres plus ou moins malfaisants. Certaines potions à base de jusquame étaient administrées aux peureux et aux timides, qui les plongeaient dans un profond sommeil, provoquant des cauchemars censés les habituer aux épreuves de la vie. Le mélilo. Étymologie du grec mélilotos, mel, miel, lotos, groupe de plantes mal identifiées dont le mélilo. Ses noms populaires sont miel des champs, en raison de sa fleur qui est mielleuse. Trèfle des abeilles, trèfle de cheval, car apprécié par ceux-ci. Trèfle d'orang, en effet, son parfum pourrait être assimilé à l'odeur de vanille, qui se renforce une fois la plante séchée. Elle servait dans les armoires comme anti-mite et anti-puce. Utilisée également en cuisine pour accommoder la viande et dans les desserts glacés. C'est un décongestionnant, un anti-cerne efficace. En application de compresses tièdes sur les yeux, il soulage également les conjonctivites. Peut être utilisé en tisane pour combattre les insomnies. Le millepertuis, l'herbe aux mille trous, du grec hyper, qui signifie au-dessus et icône, icône. Car dans l'Antiquité, on utilisait les bouquets au-dessus des statues des dieux pour chasser les mauvais esprits. Nom populaire, herbe percée, herbe à la brûlure, chasse diable. Les anciens l'utilisaient pour combattre la mélancolie. C'est en 1980 qu'on lui reconnaît des effets antidépresseurs grâce à l'hypericine et l'hyperphorine qui le composent. Mais cette plante soigne également plaies, ecchymoses et brûlures. C'est un bactéricide, un fongicide et un cicatrisant. Il s'utilise en compresse sur les blessures ou en huile de massage sur les petits bobos. La molène. Étymologie de moelleux, verbascum, car chez les Grecs et les Romains, les mèches employées pour l'éclairage se nommaient ainsi et étaient faites en bouillon blanc. D'ailleurs, le nom populaire de cette plante est herbe chandelier ou cierge de Notre-Dame, car autrefois, on confectionnait avec ses feuilles et ses tiges des torches qui servaient pour diverses cérémonies. Les anciens en portaient sur soi, croyant pouvoir protecteur de la plante. Enroulés dans un foulard contre les loups. On retrouve aussi, lors des cérémonies de la Saint-Jean, cette connotation de plante protectrice. Des chandelles de bouillon blanc servaient à allumer le feu purificateur. La molène entre également dans de nombreux rites magiques par les sorciers. Sa tige est un bon combustible et ses feuilles très spongieuses sont capables d'absorber une grande quantité d'huile. Cette plante semblerait-il à la capacité d'absorber le venin des serpents. C'est grâce à une belette mordue par une vipère et qui, après s'être roulée dans des touffes de molène, en ressort indemne que l'homme fit cette déduction. Cette plante, outre ses légendes, a des vertus médicinales. Sur des blessures qu'on peut soulager, on peut utiliser ses feuilles en cataplasme. Ou bien un macérat huileux qui l'hiver peut être bien utile. Ces fleurs ont des vertus pectorales et pour cela, on l'utilise en infusion. La saponaire, son étymologie nous provient du nom gaulois d'un décolorant pour les cheveux, qui en latin est sapo, nom qui fut attribué au savon. Ses noms populaires sont saponnière, savonnaire. C'est sa racine qui contient des quantités importantes de saponine. Dans l'Antiquité, on l'appelait herbalanaria, herbe au lainage. Son usage était répandu avant l'utilisation du savon, sous sa forme actuelle. Il suffit de broyer un morceau de racine et de les plonger dans l'eau tiède, de remuer le tout énergiquement. L'eau se mettra à mousser. Cette eau, après filtrage, peut servir à nettoyer la laine en la débarrassant de sa graisse après la tonte des moutons. Et elle servira également à blanchir des étoffes et des fils clairs. C'était, vous l'aurez compris, les plantes de prédilection des lavandières. Son usage médical, en revanche, est très strict, car elle est très toxique. L'ingestion de ces substances provoque la paralysie des mouvements et des réflexes. Elle ralentit ou arrête les mouvements respiratoires et aboutit à l'arrêt cardiaque. Elle soigne néanmoins de nombreuses maladies de peau et l'engorgement du foie. Je terminerai avec le souci, du latin sol sequia, qui suit le soleil, autre nom calendula, latin calende, premier jour de chaque mois, ainsi dénommé pour rappeler qu'il fleurit pendant de longs mois. Ces dénominations populaires sont faux safran, car on l'utilisait comme colorant alimentaire, fleurs de tous les mois. Le calendula officinalis se trouve en abondance chez les herboristes. Qu'il soit sauvage ou cultivé, il a une connotation de souffrance. La mythologie nous raconte qu'il est apparu à la mort d'Adonis, alors qu'Aphrodite versait des larmes qui se répandirent au sol. Une autre croyance veut qu'un jeune berger amoureux du soleil, ne supportant pas qu'un nuage vint voiler son astre aimé, mourut de chagrin à cause d'une tempête qui obscurcissait le ciel pendant plusieurs jours. Apollon, peiné par la destinée de ce jeune homme, le transforma en une fleur ressemblant au soleil. C'est un célèbre médecin italien, Matthiol, qui mit au grand jour son potentiel médical, lui conférant 600 propriétés, dont son pouvoir cicatrisant. Par voie interne, il est capable de soulager les ulcérations du tube digestif. En externe, il agit sur les brûlures, engelures, contusions, et sur les maladies de peau. On l'utilise sous forme de baume, par voie interne sous forme de tisane. Et si vous aimez cuisiner, vous pouvez préparer une recette originale en concoctant un gratin à base de fleurs de souci. Je vous en donne la recette. 150 g de riz, une vingtaine de fleurs de souci, 100 g de lardons fumés coupés en petits dés, 6 œufs, 200 ml de lait, un verre de crème fraîche, un peu de gruyère râpée. Précuire le riz et faire revenir les lardons dans une poêle. Y verser le riz précuit et égoutté. Dans un saladier, casser 6 œufs et y verser le lait. Un verre de crème fraîche et les fleurs de souci. Assaisonner après avoir mélangé. Versez ensuite dans un moule à gratin le riz que vous recouvrirez avec le mélange. Couvrez de gruyère et passez au four jusqu'à cuisson complète du riz. Avant de servir, décorez avec quelques fleurs fraîches. Alors, à vos fourneaux, les amateurs de gratin. Vous épaterez tous vos amis. La solution du rébus. Mon premier était va. Mon deuxième était lait. Mon troisième est le riz et mon quatrième est un âne. et le tout est valériane. La valériane, dont l'étymologie latine est valere, qui rééquilibre le corps et l'esprit. Plante du bien-être qui a des vertus calmantes. Un des noms populaires est herbe à la femme battue, car elle a le pouvoir de soulager plaies et bosses. Voilà, j'espère que la séquence vous aura plu et à la prochaine dans Divago. À bientôt!
Anna Raffaella Farao. Merci Anna Raffaella pour nous avoir guidés durant ce parcours coloré. Merci de votre écoute et à bientôt sur les ondes.
On divago, parcours ondoyant à travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.